Chapitre 6. Au premier marché qui suivit leur première rencontre à l'église, Brigaut guetta sa petite amie. Quoiqu'il la vît tremblante et pâle comme une feuille de novembre près de quitter son rameau, sans perdre la tête, il marchanda des fruits à la marchande avec laquelle la terrible Sylvie marchandait sa provision. Brigaut put glisser un billet à Pierrette, et Brigaut le glissa naturellement en plaisantant la marchande et avec l'aplomb d'un roué, comme s'il n'avait jamais fait que ce métier, tant il mit de sang-froid à son action, malgré le sang chaud qui sifflait à ses oreilles et qui sortait bouillonnant de son cœur en lui brisant les veines et les artères. Il eut la résolution d'un vieux forçat au dehors et au dedans les tremblements de l'innocence, absolument comme certaines mères dans leur crise mortelle, où elles sont prises entre deux dangers, entre deux précipices. Pierrette eut les vertiges de Brigaut. Elle serra le papier dans la poche de son tablier. Les plaques de ses pommettes passèrent aux rouges cerises des feux violents. Ces deux enfants éprouvèrent de part et d'autre, à leur insu, des sensations à défrayer 10 amours vulgaires. Ce moment leur laissa dans l'âme une source vive d'émotion. Sylvie, qui ne connaissait pas l'accent breton, ne pouvait voir un amoureux dans Brigaut, et Pierrette revint au logis avec son trésor. Les lettres de ces deux pauvres enfants devaient servir de pièces dans un horrible débat judiciaire, car sans ces fatales circonstances, elles n'eussent jamais été connues. Voici donc ce que Pierrette lut le soir dans sa chambre. « Ma chère Pierrette, à minuit, à l'heure où chacun dort, mais où je veillerai pour toi, je serai toutes les nuits au bas de la fenêtre de la cuisine. Tu peux descendre par la croisée une ficelle assez longue pour qu'elle arrive jusqu'à moi, ce qui ne fera pas de bruit, et tu attacheras ce que tu auras à m'écrire. Je te répondrai par le même moyen. J'ai su qu'il t'avait appris à lire et à écrire, ces misérables parents qui te devaient faire tant de bien et qui te font tant de mal. Toi, Pierrette, fille d'un colonel mort pour la France, réduite par ces monstres à faire leur cuisine, voilà donc où s'en sont allées les jolies couleurs et ta belle santé. Qu'est devenue ma Pierrette? Que t'ont-ils fait? Oh, je vois bien que tu n'es pas à ton aise. Ô Pierrette, retournons en Bretagne. Je puis gagner de quoi te donner tout ce qui te manque. Tu pourras avoir 3 francs par jour, car j'en gagne de 4 à 5, et 30 sous me suffisent. Ah, Pierrette, comme j'ai prié le bon Dieu pour toi depuis que je t'ai revue. Je lui ai dit de me donner toutes les souffrances et de te départir tous les plaisirs. Que fais-tu donc avec eux qui te gardent? Ta grand-mère est plus qu'eux. Ces rogrons sont venimeux. Ils t'ont ôté ta gaieté. Tu ne marches plus à Provins comme tu te mouvais en Bretagne. Retournons en Bretagne. Enfin, je suis là pour te servir, pour faire tes commandements, et tu me diras ce que tu veux. Si tu as besoin d'argent, j'ai à nous 60 écus, et j'aurai la douleur de te les envoyer par la ficelle, au lieu de baiser avec respect tes chères mains en les y remettant. Ah, voilà bien du temps, ma pauvre Pierrette, que le bleu du ciel s'est brouillé pour moi. Je n'ai pas eu 2 heures de plaisir depuis que je t'ai vue dans cette diligence de malheur. Et quand je t'ai revue comme une ombre, cette sorcière de parente a troublé notre heure. Enfin, nous aurons la consolation tous les dimanches de prier Dieu ensemble. Il nous écoutera peut-être mieux. Sans adieu, ma chère Pierrette, et à cette nuit. Cette lettre émut tellement Pierrette qu'elle demeura plus d'une heure à la relire et à la regarder. Mais elle pensa, non sans douleur, qu'elle n'avait rien pour écrire. Elle entreprit donc le difficile voyage de sa mansarde à la salle à manger, où elle pouvait trouver de l'encre, une plume, du papier, et pour l'accomplir, sans avoir réveillé sa terrible cousine. Quelques instants avant minuit, elle avait écrit cette lettre, qui fut également citée au procès. « Mon ami, oh oui, mon ami, car il n'y a que toi, Jacques, et ma grand-mère qui m'aimiez. Que Dieu me le pardonne, mais vous êtes aussi les deux seules personnes que j'aime, l'une comme l'autre, ni plus ni moins. J'étais trop petite pour avoir pu connaître ma petite maman. Mais toi, Jacques, et ma grand-mère, mon grand-père aussi, Dieu lui pardonne. Dieu lui donne le ciel, car il a bien souffert de sa ruine, qui a été la mienne. Enfin, vous deux, vous qui êtes restés, je vous aime autant que je suis malheureuse. Aussi, pour connaître combien je vous aime, faudrait-il que vous sachiez combien je souffre, et je ne le désire pas, cela vous ferait trop de peine. On me parle comme nous ne parlons pas aux chiens, on me traite comme la dernière des dernières. J'ai beau m'examiner comme si j'étais devant Dieu, je ne me trouve pas de faute envers eux. Avant que tu ne me chantes le chant des mûris et mariés, je reconnaissais la bonté de Dieu dans mes douleurs, car, comme je le priais de me retirer de ce monde, et que je me sentais bien malade, je me disais, Dieu m'entend. Mais, Brigaud, puisque te voilà, je veux nous en aller en Bretagne, retrouver ma grand-maman qui m'aime, quoiqu'il m'ait dit qu'elle m'avait volé 8 000 francs. Est-ce que je puisse posséder 8 000 francs, Brigaud? S'ils sont à moi, peux-tu les avoir? Mais c'est des mensonges. Si nous avions 8 000 francs, ma grand-mère ne serait pas à Saint-Jacques. Je n'ai pas voulu troubler ces derniers jours à cette bonne sainte femme par le récit de mes tourments. Elle serait pour mourir. Ah, si elle savait qu'on fait laver la vaisselle à sa petite fille, elle qui me disait « Laisse ça, ma mignonne, pendant ses malheurs je voulais l'aider. Laisse, laisse, mon mignon, tu gâterais tes jolies menottes. Ah bien, je les ongles propres, va. La plupart du temps, je ne puis porter le panier aux provisions qui me scie le bras en revenant du marché. Cependant, je ne crois pas que mon cousin, ma cousine, soient méchants, mais c'est leur idée de toujours gronder, et il paraît que je ne puis pas les quitter. Mon cousin est mon tuteur. Un jour où j'ai voulu m'enfuir par trop de mal, que je leur ai dit, ma cousine Sylvie m'a répondu que la gendarmerie est après moi, que la loi était pour mon tuteur, et j'ai bien compris que les cousins ne remplaçaient pas plus notre père ou notre mère que les saints ne remplacent le bon Dieu. Que veux-tu, mon pauvre Jacques, que je fasse de ton argent? Garde-le pour notre voyage. Oh, comme je pensais à toi et à Père Noël et au grand étang. C'est là que nous avons mangé notre pain blanc en premier, car il me semble que je vais à mal. Je suis bien malade, Jacques. J'ai dans la tête des douleurs à crier et dans les os, dans le dos, puis je ne sais quoi aux reins qui me tue. Et je n'ai d'appétit que pour de vilaines choses, des racines, des feuilles. Enfin, j'aime à sentir l'odeur des papiers imprimés. Il y a des moments où je pleurerais si j'étais seul, car on ne me laisse rien faire à ma guise. Je n'ai même pas la permission de pleurer. Il faut me cacher pour offrir mes larmes à celui de qui nous tenons ces grâces, que nous nommons nos afflictions. N'est-ce pas lui qui t'a donné la bonne pensée de venir chanter sous mes fenêtres le chant des mariés? Ah, Jacques, ma cousine qui t'a entendu m'a dit que j'avais un amant. Si tu veux être mon amant, aime-moi bien. Je te promets de t'aimer toujours comme par le passé et d'être ta fidèle servante, Pierrette Lorrain. Tu m'aimeras toujours, n'est-ce pas? La Bretonne avait pris dans la cuisine une croûte de pain où elle fit un trou pour mettre la lettre et donner de l'aplomb à son fil. À minuit, après avoir ouvert sa fenêtre avec des précautions excessives, elle descendit sa lettre et le pain, qui ne pouvait faire aucun bruit en heurtant le mur ou les persiennes. Elle sentit le fil tiré par Brigaut qui le cassa, puis il s'éloigna lentement à pas de loup. Quand il fut au milieu de la place, elle put le voir indistinctement dans la clarté des étoiles. Mais lui la contemplait dans la zone lumineuse de la lumière projetée par la chandelle. Ces deux enfants demeurèrent ainsi pendant une heure. Pierrette lui faisait signe de s'en aller, et lui partant, restant, elle, et lui revenant prendre son poste. Et Pierrette lui commandait de nouveau de quitter la place. Ce manège eut lieu plusieurs fois, jusqu'à ce que la petite fermât sa fenêtre, se coucha et souffla sa lumière. Une fois au lit, elle s'endormit heureuse, quoique souffrante. Elle avait la lettre de Brigaut sous son chevet. Elle dormit comme dorment les persécutés, d'un sommeil embelli par les anges. Ce sommeil aux atmosphères d'or et d'outre-mer, pleine d'arabesques divines, entrevues et rendues par Raphaël. La nature morale avait tant d'empire sur cette délicate nature physique que le lendemain, Pierrette se leva joyeuse et légère comme une alouette, radieuse et gaie. Un pareil changement ne pouvait échapper à l'œil de sa cousine, qui cette fois, au lieu de la gronder, se mit à l'observer avec l'attention d'une pie. D'où lui vient tant de bonheur? Fut une pensée de jalousie et non de tyrannie. Si le colonel n'est pas occupé, Sylvie, elle aurait dit à Pierrette comme autrefois. « Oh, Pierrette, vous êtes bien turbulente ou bien insouciante de ce que l'on vous dit. » La vieille fille résolut d'espionner Pierrette comme les vieilles filles savent espionner. Cette journée fut sombre et muette comme le moment qui précède un orage. « Vous ne souffrez donc plus, mademoiselle, » dit Sylvie au dîner. « Quand je disais qu'elle faisait tout cela pour nous tourmenter, » s'écria-t-elle en s'adressant à son frère, sans attendre la réponse de Pierrette. « Au contraire, ma cousine, j'ai comme la fièvre. »« Mais la fièvre de quoi? Vous êtes gaie comme un pinson. Vous avez peut-être revu quelqu'un ?» Pierrette frissonna et baissa les yeux sur son assiette. « Tartuffe ! » s'écria Sylvie. « À 14 ans ! Déjà, mais quelle disposition ! Mais vous serez donc une malheureuse ! » « Je ne sais pas ce que vous voulez dire, » reprit Pierrette, en levant ses beaux yeux bruns lumineux sur sa cousine. « Aujourd'hui, dit-elle, vous resterez dans la salle à manger, avec une chandelle à travailler. Vous êtes de trop salaud, et je ne veux pas que vous regardiez dans mon jeu pour en conseiller nos favoris. » Pierrette ne sourcilla pas. « Dissimulée !» s'écria Sylvie en sortant. Pongon, qui ne comprenait rien aux paroles de sa sœur, dit à Pierrette « « Mais qu'avez-vous donc ensemble ? Mais tâche de plaire à ta cousine, Pierrette. Elle est bien indulgente, bien douce, et si tu lui donnes de l'humeur, assurément, tu dois avoir tort. Mais pourquoi vous chamaillez-vous ? Moi, j'ai ma vie tranquille. Regarde, mademoiselle Mathilde, tu devrais te modeler sur elle. » Pierrette pouvait tout supporter. Brigaut viendrait sans doute à minuit lui apporter une réponse, et cette espérance était le viatique de sa journée. Mais elle usait ses dernières forces. Elle ne dormit pas, elle resta debout, écoutant sonner les heures aux pendules et craignant de faire du bruit. Enfin, minuit sonna, elle ouvrit doucement sa fenêtre, et cette fois elle usa d'une corde qu'elle s'était procurée en attachant plusieurs bouts de ficelle les uns aux autres. Elle avait entendu les pas de Brigaut, et quand elle retira sa corde, elle lut la lettre suivante qui la combla de joie. « Ma chère Pierrette, si tu souffres tant, il ne faut pas te fatiguer à m'attendre. Tu m'entendras bien crier comme criaient les chouans. Heureusement, mon père m'a appris à imiter leurs cris. Donc, je crierai 3 fois. Tu sauras alors que je suis là et qu'il faut me tendre la corde. Mais je ne viendrai pas avant quelques jours. J'espère t'annoncer une bonne nouvelle. Oh, Pierrette, mourir, mais Pierrette, y penses-tu? Tout mon cœur a tremblé, je me suis cru mort moi-même à cette idée. Non, ma Pierrette, ne mourras pas. Tu vivras heureuse et tu seras bientôt délivrée de tes persécuteurs. Si je ne réussissais pas dans ce que j'entreprends pour te sauver, j'irai parler à la justice et je dirai à la face du ciel et de la terre comment te traite d'indigne parent. Je suis certain que tu n'as plus que quelques jours à souffrir. Prends patience, Pierrette. Brigaut veille sur toi, comme au temps nous allions glisser sur l'étang et que je t'ai retiré du grand trou où nous avons manqué périr ensemble. Adieu, ma chère Pierrette. Dans quelques jours, nous serons heureux, si Dieu le veut. Hélas, je n'ose te dire la seule chose qui s'opposerait à notre réunion, mais Dieu nous aime. Dans quelques jours, je pourrai donc voir ma chère Pierrette en liberté, sans souci, sans qu'on m'empêche de te regarder, car j'ai bien faim de te voir. Oh, Pierrette! Pierrette qui daigne m'aimer et me le dire. Oui, Pierrette, je serai ton amant, mais quand j'aurai gagné la fortune que tu mérites. Et jusque-là, je ne veux être pour toi qu'un dévoué serviteur de la vie duquel tu peux disposer. Adieu. Jacques Brigaut. Voici ce que le fils du major ne disait pas à Pierrette. Brigaut avait écrit la lettre suivante à Madame Lorrain à Nantes. « Madame Lorrain, votre petite fille va mourir, accablée de mauvais traitements, si vous ne venez pas la réclamer. J'ai eu de la peine à la reconnaître, et pour vous mettre à même de juger les choses, je vous joins à la présente la lettre que j'ai reçue de Pierrette. Vous passez d'ici pour avoir la fortune de votre petite fille, et vous devez vous justifier de cette accusation. Enfin, si vous le pouvez, venez vite, nous pouvons encore être heureux, et plus tard, vous trouveriez Pierrette morte. Je suis avec respect votre dévoué serviteur, Jacques Brigaut. Chez M. Frappier, menuisier, Grand Rue à Provins. » Brigaut avait peur que la grand-mère de Pierrette ne fût morte. Quoique la lettre de celui que, dans son innocence, elle nommait son amant, fût presque une énigme pour la Bretonne, elle y crut avec sa vierge foi. Son cœur éprouva les sensations que les voyageurs du désert ressentent en apercevant de loin les palmiers autour du puits. Dans peu de jours, son malheur cesserait. Brigaut le lui disait. Elle dormit sur la promesse de son ami d'enfance. Et cependant, en joignant cette lettre à l'autre, il eut une affreuse pensée, affreusement exprimée. « Pauvre Brigaut, se dit-elle, il ne sait pas dans quel trou j'ai mis les pieds. » Sylvie avait entendu Pierrette. Elle avait également entendu Brigaut sous sa fenêtre. Elle se leva, se précipita pour examiner la place à travers les persiennes et vit, au clair de la lune, un homme s'éloignant vers la maison où demeurait le colonel et en face de laquelle Brigaut resta. La vieille fille ouvrit tout doucement sa porte, monta, fut stupéfaite de voir de la lumière chez Pierrette, regarda par le trou de la serrure et ne put rien voir. « Pierrette, dit-elle, êtes-vous malade ?»« Non, ma cousine, répondit Pierrette, surprise. « Mais pourquoi donc avez-vous de la lumière à minuit ? Ouvrez, je dois savoir ce que vous faites. » Pierrette vint ouvrir nu-pied, et sa cousine vit la ficelle amassée que Pierrette n'avait pas eu le soin de serrer, n'imaginant point être surprise. Sylvie sauta dessus. « Et à quoi cela vous sert-il ? » ?»« Mais à rien, ma cousine. » « À rien, dit-elle. Bon, toujours mentir. Vous ne direz pas ainsi dans le paradis. Allez, recouchez-vous, vous avez froid. » Elle n'en demanda pas plus et se retira, laissant Pierrette frappée de terreur par cette démence. Au lieu d'éclater, Sylvie avait soudain résolu de surprendre le colonel et Pierrette, de saisir les lettres et de confondre les deux amants qui la trompaient. Pierrette, inspirée par son danger, doubla son corset avec ses deux lettres et le recouvrit de calicot. Là finirent les amours de Pierrette et de Brigaut. Pierrette fut bien heureuse de la détermination de son amie, car les soupçons de sa cousine allaient être déjoués en ne trouvant plus d'aliments. En effet, Sylvie passa 3 nuits sur ses jambes et 3 soirées à épier l'innocent colonel, sans voir ni chez Pierrette, ni dans la maison, ni au dehors, rien qui de cela leur intelligence. Elle envoya Pierrette à confesse et prit ce moment pour tout fouiller chez cet enfant, avec l'habitude, la perspicacité des espions et des commis de barrière de Paris. Elle ne trouva rien. Sa fureur atteignit à l'apogée des sentiments humains. Si Pierrette avait été là, certes elle l'eût frappé sans pitié. Pour une fille de cette trempe, la jalousie était moins un sentiment qu'une occupation. Elle vivait, elle sentait battre son cœur. Elle avait des émotions jusqu'alors complètement inconnues. Pour elle, le moindre mouvement la tenait éveillée. Elle écoutait les plus légers bruits. Elle observait Pierrette avec une sombre préoccupation. « Mais cette petite misérable me tuera !» disait-elle. Les sévérités de Sylvie envers sa cousine arrivèrent à la cruauté la plus raffinée et empirèrent la situation déplorable où Pierrette se trouvait. La pauvre petite avait régulièrement la fièvre, et ses douleurs à la tête devinrent intolérables. En 8 jours, elle offrit aux habitués de la maison Rogron une figure de souffrance qui certes eût attendri des intérêts moins cruels. Mais le médecin Néraud, conseillé peut-être par Vinet, resta plus d'une semaine sans venir. Le colonel, soupçonné par Sylvie, eut peur de faire manquer son mariage en marquant la plus légère sollicitude pour Pierrette. Bathilde expliquait le changement de cet enfant par une crise prévue, naturelle et sans danger. Enfin, un dimanche soir, où Pierrette était au salon, alors plein de monde, elle ne put résister à tant de douleurs. Elle s'évanouit complètement. Et le colonel, qui s'aperçut le premier de l'évanouissement, alla la prendre et la porta sur l'un des canapés. « Elle l'a fait exprès, » dit Sylvie, en regardant Mademoiselle Habert et ceux qui jouaient avec elle. « Mais je vous assure que votre cousine est fort mal, » dit le colonel. « Mais elle était très bien dans vos bras, » dit Sylvie au colonel avec un affreux sourire. « Le colonel a raison, » dit Madame de Charles Boeuf. « Vous devriez faire venir un médecin. » Ce matin, à l'église, chacun parlait en sortant de l'état de Mademoiselle Lorrain, qui est visible. Je meurs, dit Pierrette. Desfaudry appela Sylvie et lui dit de défaire la robe de sa cousine. Sylvie courut en disant « C'est du jury !» Elle défit la robe, elle allait toucher au corset. Pierrette alors trouva des forces surhumaines, elle se redressa et s'écria « Non, j'irai me coucher !» Sylvie avait tâté le corset et sa main y avait senti les papiers. Elle laissa Pierrette se sauver en disant à tout le monde « Eh bien, que dites-vous de sa maladie? Mais c'est des frimes! Vous ne sauriez imaginer la perversité de cet enfant !» Après la soirée, elle retint Vinet. Elle était furieuse, elle voulait se venger. Elle fut grossière avec le colonel quand il lui fit ses adieux. Le colonel jeta sur Vinet un certain regard qui le menaçait jusque dans le ventre. Il semblait y marquer la place d'une balle. Sylvie pria Vinet de rester. Quand ils furent seuls, la vieille fille lui dit « Jamais, ni de ma vie, ni de mes jours, je n'épouserai le colonel. Maintenant que vous en avez pris la résolution, je puis parler. Le colonel est mon ami, mais je suis plus le vôtre que le sien. » Rengros m'a rendu des services que je n'oublierai jamais. Je suis aussi bon ami qu'implacable ennemi. Certes, une fois à la chambre, on verra jusqu'où je saurai parvenir et Rengros sera receveur général de ma façon. Eh bien, jurez-moi de ne jamais rien répéter de notre conversation. Sylvie fit un signe affirmatif. D'abord, ce brave colonel est joueur comme les cartes. Hein ? Fit Sylvie. Sans les embarras où sa passion l'a mis, il eût été maréchal de France, peut-être, reprit l'avocat. Ainsi, votre fortune, il pourrait la dévorer, mais c'est un homme profond. Ne croyez pas que les époux ont ou n'ont pas d'enfants à volonté. Dieu donne les enfants, et vous savez ce qui vous arriverait. Non. Si vous voulez vous marier, attendez que je sois dans la chambre, et vous pourrez épouser ce vieux Desfaudry, qui sera président de tribunal. Pour vous venger, mariez votre frère, mademoiselle de Charlebœuf. Je me charge d'obtenir son consentement. Elle aura 2 000 francs de rente, et vous serez allié au Charlebœuf comme je le suis. Croyez-le, le Charlebœuf nous tiendra un jour sur cousse pour cousin. Mais Gouraud aime Pierrette, fut la réponse de Sylvie. Oh, il en est bien capable, dit Vinet, capable de l'épouser après votre mort. Un joli petit calcul, dit-elle. Je vous l'ai dit, c'est un homme rusé comme le diable. Mariez votre frère en annonçant que vous le voulez rester fille, pour laisser votre vie à vos neveux ou nièces. Vous atteignez d'un seul coup Pierrette et Gouraud, et vous verrez quelle bile il vous fera. « Ah, c'est vrai !» s'écria la vieille fille. « Je les tiens. Elle ira dans un magasin, elle n'en aura rien. Elle est sans le sou. Qu'elle fasse comme nous, qu'elle travaille !» Vinet sortit après avoir fait entrer son plan dans la tête de Sylvie, dont l'entêtement lui était connu. La vieille fille devait finir par croire que ce plan venait d'elle. Vinet trouva sur la place le colonel fumant un cigare et qui l'attendait. « Halte !» lui dit Gouraud. « Vous m'avez démoli, mais il y a dans la démolition assez de pierres pour vous enterrer. Colonel ! Oh, il n'y a pas de colonel ! Je vais vous mener bon train, et d'abord vous ne serez jamais député. Colonel, je dispose de 10 voix, et l'élection dépend de... Colonel, écoutez-moi donc. N'y a-t-il que la vieille Sylvie? Je viens d'essayer de vous justifier. Vous êtes atteint et convaincu d'écrire à Pierrette. Elle vous a vu sortant de chez vous à minuit pour venir sous ses fenêtres. Oh, bien trouvé. Elle va marier son frère à Mathilde et réserver sa fortune à leurs enfants. Et Rogon en aura-t-il? Oui, dit Vinet. Mais je vous promets de vous trouver une jeune et agréable personne avec 150 000 francs. Êtes-vous fou? Mais pouvons-nous nous brouiller? Les choses ont malheureusement tourné contre vous, mais vous ne me connaissez pas. Eh bien, il faut se connaître, reprit le colonel. Faites-moi épouser une femme de 50 000 écus avant les élections, sinon, votre serviteur. J'aime pas les mauvais coucheurs. Et vous avez tiré à vous toute la couverture. Allez, bonsoir. Vous verrez, dit Vinet, en serrant affectueusement la main au colonel. Vers 1 h du matin, les trois cris, clairs et nets d'une chouette admirablement bien imitée, retentirent sur la place. Pierrette les entendit dans son sommeil fiévreux. Elle se leva toute moite, ouvrit sa fenêtre, vit Brigaut, et lui jeta un peloton de soie auquel il attacha une lettre. Sylvie, agitée par les événements de la soirée et par ses irrésolutions, ne dormait pas. Elle crut à la chouette. « Ah, quel oiseau de mauvais augure !»« Mais tiens, Pierrette se lève, qu'a-t-elle ?» En entendant ouvrir la fenêtre de la mansarde, Sylvie alla précipitamment à sa fenêtre et entendit le long de ses persiennes le frôlement du papier de Brigaut. Elle serra les cordons de sa camisole et monta lestement chez Pierrette, qu'elle trouva détortillant la soie et dégageant la lettre. « Ah, je vous y prends !» s'écria la vieille fille en allant à la fenêtre et voyant Brigaut qui se sauvait à toutes jambes. « Vous allez me donner cette lettre ?»« Non, ma cousine, » dit Pierrette, qui par une de ces immenses inspirations de la jeunesse et soutenue par son âme, s'éleva jusqu'à la grandeur de la résistance que nous admirons dans l'histoire de quelques peuples réduits au désespoir. « Ah, vous ne voulez pas !» s'écria Sylvie en s'avançant vers sa cousine et lui montrant un horrible masque plein de haine et grimaçant de fureur. Pierrette se recula pour avoir le temps de mettre sa lettre dans sa main qu'elle tint serrée par une force invincible. En voyant cette manœuvre, Sylvie empoigna dans ses pattes de homard la délicate, la blanche main de Pierrette et voulut la lui ouvrir. Ce fut un combat terrible, un combat infâme, comme tout ce qui attend à la pensée, seul trésor que Dieu met hors de toute puissance et garde comme un lien secret entre les malheureux et lui. Ces deux femmes, l'une mourante et l'autre pleine de vigueur, se regardèrent fixement. Les yeux de Pierrette lançaient à son bourreau ce regard du templier recevant dans la poitrine des coups de balancier en présence de Philippe le Bel, qui ne put soutenir ce rayon terrible et quitta la place foudroyée. Sylvie, femme et jalouse, répondait à ce regard magnétique par des éclairs sinistres. Un horrible silence régnait. Les doigts serrés de la Bretonne opposaient aux tentatives de sa cousine une résistance égale à celle d'un bloc d'acier. Sylvie torturait le bras de Pierrette. Elle essayait d'ouvrir les doigts et, n'obtenant rien, elle plantait inutilement ses ongles dans la chair. Enfin, la rage s'en mêlant, elle porta ce poing à ses dents pour essayer de mordre les doigts et de vaincre Pierrette par la douleur. Pierrette la défiait toujours par le terrible regard de l'innocence. La fureur de la vieille fille s'accrut à un tel point qu'elle arriva jusqu'à l'aveuglement. Elle prit le bras de Pierrette et se mit à frapper le poing sur l'appui de la fenêtre, sur le marbre de la cheminée, comme quand on veut casser une noix pour en avoir le fruit. « Au secours ! Au secours ! » cria Pierrette. « On me tue ! » !»« Ah, tu cries, et je te prends avec un amoureux au milieu de la nuit !» Et elle frappait sans pitié. « Au secours ! » cria Pierrette, qui avait le poing en sang. En ce moment, des coups furent violemment frappés à la porte. Également lassées, les deux cousines s'arrêtèrent. Brogron, éveillé, inquiet, ne sachant ce dont il s'agissait, se leva, courut chez sa sœur et ne la vit pas. Il eut peur, descendit, ouvrit, et fut comme renversé par Brigaut, suivi d'une espèce de fantôme. En ce moment intime même, les yeux de Sylvie aperçurent le corset de Pierrette. Elle se souvint d'y avoir senti des papiers. Elle sauta dessus comme un tigre sur sa proie, entortilla le corset autour de son poing et le lui montra en lui souriant comme un Iroquois sourit à son ennemi avant de se calmer, scalper. « Ah ah, je meurs !» dit Pierrette en tombant sur ses genoux. « Qui me sauvera ?»« Moi !» s'écria une femme en cheveux blancs qui offrit à Pierrette un vieux visage de parchemin où brillaient deux yeux gris. « Oh, grand-mère, tu arrives trop tard !» s'écria la pauvre enfant en fondant en larmes. Pierrette alla tomber sur son lit, abandonnée par ses forces et tuée par l'abattement qui, chez une malade, subit une lutte si violente. Le grand fantôme desséché prit Pierrette dans ses bras comme les bonnes prennent les enfants et sortit, suivi de Brigaut, sans dire un seul mot à Sylvie, à laquelle elle lança la plus majestueuse accusation par un regard tragique. L'apparition de cette auguste vieille dans son costume breton, encapuchonné de sa coiffe, qui est une sorte de pelisse en drap noir, accompagnée du terrible Brigaut, épouvanta Sylvie. Elle crut avoir vu la mort. La vieille fille descendit, entendit la porte se fermer et se trouva nez à nez avec son frère qui lui dit « Ils t'ont donc pas tué ?»« Couche-toi, » dit Sylvie, « demain matin nous verrons ce que nous devons faire. » Elle se remit au lit, dont le corset défit le corset et lut les deux lettres de Brigaut qui la confondirent. Elle s'endormit dans la plus étrange perplexité, ne se doutant pas de la terrible action à laquelle sa conduite devait donner lieu. Les lettres envoyées par Brigaut à Madame Veuve Lorrain l'avaient trouvée dans une joie ineffable et que leur lecture troubla. Cette pauvre septuagénaire mourait de chagrin de vivre sans Pierrette auprès d'elle. Elle se consolait de l'avoir perdue en croyant s'être sacrifiée aux intérêts de sa petite fille. Elle avait un de ces cœurs toujours jeunes que soutient et anime l'idée du sacrifice. Son vieux mari, dont la seule joie était cette petite fille, avait regretté Pierrette tous les jours et il l'avait cherchée autour de lui. Ce fut une douleur de vieillard dans laquelle les vieillards vivent et finissent par mourir. Chacun peut alors juger du bonheur que dut éprouver cette pauvre vieille confinée dans un hospice en apprenant d'une de ces actions rares mais qui cependant arrivent encore en France. Après ces désastres, François-Joseph Collinet, chef de la maison Collinet, était parti pour l'Amérique avec ses enfants. Il avait trop de cœur pour demeurer ruiné, sans crédit à Nantes, au milieu des malheurs que sa faillite y causait. De 1814 à 1824, ce courageux négociant, aidé par ses enfants et par son caissier, qui lui resta fidèle et lui donna les premiers fonds, avait recommencé courageusement une autre fortune. Après des travaux inouïs, couronnés par le succès, il vint vers la 11e année se faire réhabiliter à Nantes en laissant son fils aîné à la tête de sa maison transatlantique. Il trouva Madame Lorrain de Père Noël à Saint-Jacques et fut témoin de la résignation avec laquelle la plus malheureuse de ses victimes y supportait sa misère. « Dieu vous pardonne, lui dit la vieille, puisque sur le bord de ma tombe vous me donnez les moyens d'assurer le bonheur de ma petite fille. Mais moi, je ne pourrai jamais faire réhabiliter mon pauvre homme. » Monsieur Collinet apportait à sa créancière capital et intérêt au taux du commerce, environ 42 000 francs. Ses autres créanciers, commerçants actifs, riches, intelligents, s'étaient soutenus, tandis que le malheur des Lorrains parut irrémédiable au vieux Collinet, qui promit à la veuve de faire réhabiliter la mémoire de son mari dès qu'il ne s'agissait que d'une 40 000 francs de plus. Quand la bourse de Nantes apprit ce trait de générosité réparatrice, on y voulut recevoir Collinet avant l'arrêt de la cour royale de Rennes. Mais le négociant refusa cet honneur et se soumit à la rigueur du code de commerce. Madame Lorrain avait donc reçu 42 000 francs la veille du jour où la poste lui apporta les lettres de Brigaut. En donnant sa quittance, son premier mot fut « Ah, mais je pourrais donc vivre avec ma Pierrette et la marier à ce pauvre Brigaut qui fera sa fortune avec mon argent. » Et elle ne tenait pas en place, elle s'agitait, elle voulait partir pour Provins. Aussi, quand il eut lu les fatales lettres, s'élança-t-elle dans la ville comme une folle, en demandant les moyens d'aller à Provins avec la rapidité de l'éclair. Elle partit par la malle quand on lui eut expliqué la célérité gouvernementale de cette voiture. À Paris, elle avait pris la voiture de Troyes. Elle venait d'arriver à 11h30 chez Frappier ou Brigaut. À l'aspect du sombre désespoir de la vieille bretonne, lui promit aussitôt de lui amener sa petite fille, en lui disant en peu de mots l'état de Pierrette. Ce peu de mots effraya tellement la grand-mère qu'elle ne put vaincre son impatience et elle courut sur la place. Et quand Pierrette cria, la bretonne eut le cœur atteint par ce cri tout aussi vivement que le fut celui de Brigaut. À eux deux, ils eussent sans doute réveillé tous les habitants, si par crainte au rogron ne leur eût ouvert. Ce cri d'une jeune fille aux abois donna soudain à sa grand-mère autant de force que d'épouvante. Elle porta sa chère Pierrette jusque chez Frappier, dont la femme avait arrangé à la hâte la chambre de Brigaut pour la grand-mère de Pierrette. Ce fut donc dans ce pauvre logement, sur un lit à peine fait, que la malade fut déposée. Elle s'y évanouit, tenant encore son poing fermé, meurtri, sanglant, les ongles enfoncés dans la chair. Brigaut, Frappier, sa femme et la vieille contemplèrent Pierrette en silence, tous en proie à un étonnement indicible. Mais pourquoi sa main est-elle en sang ? Fut le premier mot de la grand-mère. Pierrette, vaincue par le sommeil qui suit les grands déploiements de force, et se sachant à l'abri de toute violence, déplia ses doigts. La lettre de Brigaut tomba comme une réponse. On a voulu lui prendre ma lettre, dit Brigaut, en tombant à genoux et ramassant le mot qu'il avait écrit pour dire à sa petite amie de quitter tout doucement la maison des Rogron. Il baisa pieusement la main de cette martyre. Il y eut alors quelque chose qui fit frémir les menuisiers. Ce fut de voir la vieille Lorrain, ce spectre sublime, debout au chevet de son enfant. La terreur et la vengeance glissaient leurs flamboyantes expressions dans les milliers de rides qui frondaient sa peau d'ivoire jaunie. Ce front, couvert de cheveux gris épars, exprimait la colère divine. Elle lisait avec cette puissance d'intuition départie au vieillard près de la tombe toute la vie de Pierrette, à laquelle elle avait d'ailleurs pensé pendant son voyage. Elle devina la maladie de jeune fille qui menaçait de mort son enfant chéri. Deux grosses larmes péniblement nées dans ses yeux blancs et gris, auxquels les chagrins avaient arraché les cils et les sourcils, deux perles de douleur se formèrent, leur communiquèrent une épouvantable fraîcheur, grossirent et roulèrent sur les joues desséchées, sans les mouiller. « Ils me l'ont tué !» dit-elle enfin, en joignant les mains. Elle tomba sur ses genoux, qui frappèrent deux coups secs sur le carreau. Elle se mit à faire sans doute un vœu à Sainte-Anne d'Auray, la plus puissante des madones de la Bretagne. « Un médecin de Paris, dit-elle à Brigaut, cours-y, Brigaut, va !» Elle le prit par l'épaule et le fit marcher par un jet de commandement despotique. « J'allais venir, mon Brigaut, je suis riche. Tiens !» s'écria-t-elle en le rappelant. Elle défit le cordon qui nouait les deux verstes de son casquin sur sa poitrine. Elle en tira un papier où 42 billets de banque étaient enveloppés et lui dit « Allez, prends ce qu'il te faut, ramène le plus grand médecin de Paris. »« Gardez, » dit Frappier, « il ne pourra pas changer un billet en ce moment. J'ai de l'argent, la diligence va passer, il y trouvera bien une place, mais auparavant, ne vaudrait-il pas mieux consulter M. Martener, qui nous indiquerait un médecin à Paris ?» La diligence ne vient que dans une heure. Nous avons le temps. Brigaut alla réveiller M. Martener. Il amena ce médecin. Il ne fut pas peu surpris de savoir Mlle Lorrain chez Frappier. Brigaut lui expliqua la scène qui venait d'avoir lieu chez les Rogron. Le bavardage d'un amant au désespoir éclaira ce drame domestique au médecin, sans qu'il en soupçonnât l'horreur, ni l'étendue. Martener donna l'adresse du célèbre Horace Bianchon à Brigaut, qui partit avec son maître en entendant le bruit de la diligence. M. Martener s'assit, examina d'abord les ecchymoses et les blessures de la main qui pendaient en dehors du lit. « Elle ne s'est pas fait elle-même ses blessures, » dit-il. « Non, l'horrible fille à qui j'ai eu le malheur de la confier l'a massacrée, » dit la grand-mère. « Ma pauvre Pierrette criait au secours, je meurs, fendre le cœur à un bourreau. »« Mais pourquoi ?» dit le médecin en prenant le pouls de Pierrette. « Elle est bien malade, » reprit-il en approchant une lumière du lit. « Bon, nous la sauverons difficilement, » dit-il après avoir vu la face. « Elle a dû bien souffrir, mais je comprends pas comment on ne l'a pas soignée. »« Mon intention, » dit la grand-mère, « est de me plaindre à la justice. Des gens qui m'ont demandé ma petite fille par une lettre, en se disant riche de 12 000 livres de rente, Avaient-ils le droit d'en faire leur cuisinière, de lui faire faire des services au-dessus de ses forces? Ils n'ont donc pas voulu voir la plus visible des maladies auxquelles les jeunes filles sont parfois sujettes et qui exigent les plus grands soins, s'écria M. Martener. Pierrette fut réveillée, et par la lumière que Madame Frappier tenait pour bien éclairer le visage, et par les horribles souffrances que la réaction morale de sa lutte lui causait à la tête. « Ah, Monsieur Martener, je suis bien mal, » dit-elle de sa jolie voix. « Mais d'où souffrez-vous, ma petite amie ?» dit le médecin. « Là, » fit-elle en montrant le haut de sa tête, au-dessus de l'oreille gauche. « Mais il y a un dépôt !» s'écria le médecin, après avoir pendant longtemps palpé la tête et questionné Pierrette sur ses souffrances. « Il faut tout nous dire, mon enfant, pour que nous puissions vous guérir. Pourquoi votre main est-elle ainsi ? Ce n'est pas vous qui vous êtes fait de semblables blessures. » Pierrette raconta naïvement son combat avec sa cousine Sylvie. « Faites-la causer, » dit le médecin à la grand-mère, « et sachez bien tout. J'attendrai l'arrivée du médecin de Paris et nous nous adjoindrons le chirurgien en chef de l'hôpital pour consulter. Tout ceci me paraît bien grave. Je vais vous faire envoyer une potion calmante que vous donnerez à mademoiselle pour qu'elle dorme. Elle a besoin de sommeil. » Restée seule avec sa petite fille, la vieille bretonne se fit tout révéler en usant de son ascendance sur elle, en lui apprenant qu'elle était assez riche pour eux trois, et lui promettant que Brigaut resterait avec elle. La pauvre enfant confessa son martyre, en ne devinant pas à quel procès elle allait donner lieu. Les monstruosités de ces deux êtres, sans affection et qui ne savaient rien de la famille, découvraient à la vieille femme des mondes de douleurs aussi loin de sa pensée qu'on put l'être les mœurs des races sauvages de celles des premiers voyageurs qui pénétraient dans les savanes de l'Amérique. L'arrivée de sa grand-mère, la certitude d'être à l'avenir avec elle et riche, endormir la pensée de Pierrette comme la potion lui endormit le corps. La vieille bretonne veilla sa petite fille en lui baisant le front, les cheveux et les mains, comme les saintes femmes durent baiser Jésus en le mettant au tombeau. Dès 9 heures du matin, M. Martener alla chez le président, auquel il raconta la scène de nuit entre Sylvie et Pierrette, puis les tortures morales et physiques, les sévices de tout genre que les rogrons avaient déployés sur leurs pupilles, et les deux maladies mortelles qui s'étaient développées par suite de ces mauvais traitements. Le président envoya chercher le notaire Auffray, l'un des parents de Pierrette, dans la ligne maternelle. En ce moment, la guerre entre le parti Vinet et le parti Tiphaine était à son apogée. Les propos que les rogrons et leurs adhérents faisaient courir dans Provins sur la liaison connue de Madame Rogroin avec le banquier du Tillet, sur les circonstances de la banqueroute du père de Madame Tiphaine, un faussaire, disait-on, atteignirent d'autant plus vivement le parti des Tiphaine que c'était de la médisance et non de la calomnie. Ces blessures allaient à fond de cœur, elles attaquaient les intérêts au vif. Ces discours redits aux partisans de Tiphaine par les mêmes bouches qui communiquaient aux rogrons les plaisanteries de la belle Madame Tiphaine et de ses amis alimentaient les haines désormais combinées de l'élément politique. Les irritations que causait alors en France l'esprit de parti, dont les violences furent excessives, se liaient partout, comme à Provins, à des intérêts menacés, à des individualités blessées et militantes. chacune de ses coteries, saisissait avec ardeur ce qui pouvait nuire à la coterie rivale. L'animosité des partis se mêlait autant que l'amour-propre au moindre des affaires que souvent allait fort loin. Une ville se passionnait pour certaines luttes et les étendait de toute la grandeur du débat politique. Ainsi le président vit dans la cause entre Pierrette et les Rogrons un moyen d'abattre, de déconsidérer, de déshonorer les maîtres de ce salon où s'élaboraient des plans contre la monarchie, où le journal de l'opposition avait pris naissance. Le procureur du roi fut mandé. Monsieur Le Sourd, Monsieur Auffray, le notaire, subrogés tuteurs de Pierrette et le président, examinèrent alors dans le plus grand secret, avec Monsieur Bartener, la marche à suivre. Monsieur Bartener se chargea de dire à la grand-mère de Pierrette de venir porter plainte au subrogé tuteur. Le subrogé tuteur convoquerait le conseil de famille et, armé de la consultation des trois médecins, demanderait d'abord la destitution du tuteur. L'affaire ainsi posée arriverait au tribunal et M. Le Sourd verrait alors apporter l'affaire au criminel en provoquant une instruction. Vers midi, tout Provins était soulevé par l'étrange nouvelle de ce qui s'était passé pendant la nuit dans la maison Rogron. Les cris de Pierrette avaient été vaguement entendus sur la place, mais ils avaient peu duré. Personne ne s'était levé, seulement chacun s'était demandé « Avez-vous entendu du bruit des cris sur les 1 heure ? Qu'était-ce ?» Les propos et les commentaires avaient si singulièrement grossi ce drame horrible que la foule s'amassa devant la boutique de Frappier, à qui chacun demanda des renseignements, et le brave menuisier peignit l'arrivée chez lui de la petite, le poing ensanglanté, les doigts brisés. Vers 1 heure après-midi, la chaise de poste du docteur Bianchon, auprès de qui se trouvait Brigaud, s'arrêta devant la maison de Frappier, dont la femme alla prévenir à l'hôpital M. Martener et le chirurgien en chef. Ainsi, les propos de la ville reçurent une sanction. Les Rogrons furent accusés d'avoir maltraité leur cousine à dessein et de l'avoir mise en danger de mort. La nouvelle atteignit Vinet au palais de justice. Il quitta tout et alla chez les Rogrons. Rogron et sa sœur achevaient de déjeuner. Sylvie hésitait à dire à son frère sa découverte de la nuit et se laissait presser de questions sans y répondre autrement que par « Oh, cela ne te regarde pas !» Elle allait et venait de sa cuisine à la salle à manger pour éviter la discussion. Elle était seule quand Villette apparut. « Mais vous ne savez donc pas ce qui se passe ?» dit l'avocat. « Non, » dit Sylvie. « Mais vous allez avoir un procès criminel sur le corps, à la manière dont vont les choses à propos de Pierrette. »« Un procès criminel, » dit Rogron, qui survint. « Pourquoi? Comment ?»« Mais avant tout, » s'écria l'avocat en regardant Sylvie, « expliquez-moi, sans détour, ce qui a eu lieu cette nuit, et comme si vous étiez devant Dieu, car on parle de couper le poing à Pierrette. » Sylvie devint blême et frissonna. « Bien donc, quelque chose ?» dit Vinet. Mademoiselle Rogron raconta la scène en voulant s'excuser, mais, pressée de questions, elle avoua l'effet grave de cette horrible lutte. « Oh, si vous lui avez seulement fracassé les doigts, vous n'irez qu'en police correctionnelle, mais... « S'il faut lui couper la main, vous pouvez aller en cour d'assises. Les Tiphaine font tout pour vous mener jusque-là. Sylvie, plus morte que vive, avoua sa jalousie. Et ce qui fut plus cruel à dire, combien ses soupçons se trouvaient erronés. Quel procès, dit Vinet. Mais vous et votre frère, vous pouvez y périr. Vous serez abandonné par bien des gens, même en le gagnant. Si vous ne triomphez pas, il faudra quitter Provins. Oh, mon cher monsieur Vinet, vous qui êtes un si grand avocat, dit Rogron épouvanté, conseillez-nous, sauvez-nous. L'adroit Vinet porta la terreur de ces deux imbéciles au comble et déclara positivement que madame et mademoiselle de Charlesbœuf hésiteraient à revenir chez eux. Être abandonné par ces dames serait une terrible condamnation. Enfin, après une heure de magnifiques manœuvres, il fut reconnu que, pour déterminer Vinet à sauver les Rogron, il devait avoir aux yeux de tout Provins un intérêt majeur à les défendre. Dans la soirée, le mariage de Rogron avec mademoiselle de Chargebœuf serait donc annoncé. Les bans seraient publiés dimanche. Le contrat se ferait immédiatement chez Cournant et mademoiselle Rogron y paraîtrait pour, en considération de cette alliance, abandonner par une donation entre vifs la due propriété de ses biens à son frère. Vinet avait fait comprendre à Rogron et à sa sœur la nécessité d'avoir un contrat de mariage minuté 2 ou 3 jours avant cet événement, afin de compromettre madame et mademoiselle de Charlesbœuf aux yeux du public et leur donner un motif de persister à venir dans la maison Rogron. Signez ce contrat, et je prends sur moi l'engagement de vous tirer d'affaire, dit l'avocat. Oh, ce sera sans doute une terrible lutte, mais je m'y mettrai tout entier, et vous me devrez encore un fameux cierge. Ah oui, dit Rogron. À 11h30, l'avocat a eu plein pouvoir, et pour le contrat, et pour la conduite du procès. À midi, le président fut saisi d'un référé intenté par Vinet contre Brigaut et madame Veuve Lorrain pour avoir détourné la mineure Lorrain du domicile de son tuteur. Ainsi, le hardi Vinet se posait comme agresseur et mettait Rogron dans la position d'un homme irréprochable. Aussi en parla-t-il dans ce sens au palais. Le président remit à 4 heures à entendre les parties. Il est inutile de dire à quel point la petite ville de Provins était soulevée par ces événements. Le président savait qu'à 3 heures, la consultation des médecins serait terminée. Il voulait que le subrogé tuteur, parlant pour l'aïeul, se présenta armé de cette pièce. L'annonce du mariage de Rogron avec la belle Mathilde de Charlesbœuf et des avantages que Sylvie faisait au contrat amena soudain 2 personnes au Rogron. Mademoiselle Habert et le colonel, qui tous deux virent leurs espérances anéanties. Céleste Habert et le colonel restèrent ostensiblement attachés au Rogron, mais pour leur nuire plus sûrement. Ainsi, dès que M. Martener révéla l'existence d'un dépôt à la tête de la pauvre victime des 2 merciers, Céleste et le colonel parlèrent du coup que Pierrette s'était donné pendant la soirée où Sylvie avait contrainte à quitter le salon et rappelèrent les cruelles et barbares exclamations de Mademoiselle Rogron. Ils racontèrent les preuves d'insensibilité données par cette vieille fille envers sa pupille souffrante. Ainsi, les amis de la maison admirent des torts graves en paraissant défendre Sylvie et son frère. Vinet avait prévu cet orage, Mais la fortune des Rogron allait être acquise à mademoiselle de Charlesbœuf, et il se promettait, dans quelques semaines, de lui voir habiter la jolie maison de la place et de régner avec elle sur Provins, car il méditait déjà des fusions avec les Bréautey dans l'intérêt de ses ambitions. Depuis midi jusqu'à 4 heures, toutes les femmes du parti Tiphaine, les Garcelans, les Guépin, les Julliards, Galardon, Guéné, la sous-préfète, envoyèrent savoir des nouvelles de mademoiselle Lorrain. Pierrette ignorait entièrement le tapage fait en ville à son sujet. Elle éprouvait, au milieu de ses vives souffrances, un ineffable bonheur à se trouver entre sa grand-mère et Brigaut, les objets de ses affections. Brigaut avait constamment les yeux pleins de larmes et la grand-mère cajolait sa chère petite fille. Dieu sait si l'aïeul fit grâce aux trois hommes de science d'aucun des détails qu'elle avait obtenus de Pierrette sur sa vie dans la maison Rogron. Horace Bianchon exprima son indignation en termes véhéments. Épouvanté d'une semblable barbarie, il exigea que les autres médecins de la ville fussent mandés en sorte que M. Néraud fut présent et invité, comme ami de Rogron, à contredire s'il avait lieu les terribles conclusions de la consultation qui, malheureusement pour les Rogron, fut rédigée à l'unanimité. Néraud, qui déjà passait pour avoir fait mourir de chagrin la grand-mère de Pierrette, était dans une fausse position, de laquelle profita l'adroit Martener, enchanté d'accabler les Rogron et de compromettre en ceci M. Néraud, son antagoniste. Il est inutile de donner le texte de cette consultation, qui fut encore une des pièces du procès. Si les termes de la médecine de Molière étaient barbares, ceux de la médecine moderne ont l'avantage d'être si clairs que l'explication de la maladie de Pierrette, quoique naturelle et malheureusement commune, effraierait les oreilles. Cette consultation était d'ailleurs péremptoire, appuyée par un nom aussi célèbre que celui d'Horace Bianchon. Après l'audience, le président resta sur son siège en voyant la grand-mère de Pierrette accompagnée de M. Auffray, de Brigaut et d'une foule nombreuse. Vinet était seul. Ce contraste frappa l'audience, qui fut frossie d'un grand nombre de curieux. Vinet, qui avait gardé sa robe, leva vers le président sa face froide en assurant ses besicles sur ses yeux verts. Puis, de sa voix grêle et persistante, il exposa que des étrangers s'étaient introduits nuitamment chez M. et Mlle Rogron et y avaient enlevé la mineure Lorrain. Force devait rester au tuteur qui réclamait sa pupille. M. Auffray se leva comme subrogé tuteur et demanda la parole. « Si Monsieur le Président, dit-il, veut prendre communication de cette consultation émanée d'un des plus savants médecins de Paris et de tous les médecins et chirurgiens de Provins, il comprendra combien la réclamation du Sieur Rogron est insensée et quel motif grave portait l'aïeul de la mineure à l'enlever immédiatement à ses bourreaux. Voici le fait. » Une consultation délibérée à l'unanimité par un illustre médecin de Paris mandé en toute hâte et par tous les médecins de cette ville attribue l'état presque mortel où se trouve la mineure au mauvais traitement qu'elle a reçu des sieurs et demoiselles Rogron. En droit, le conseil de famille sera convoqué dans le plus bref délai et consulté sur la question de savoir si le tuteur doit être destitué de sa tutelle. Nous demandons que la mineure ne rentre pas au domicile de son tuteur et soit confiée aux membres de la famille qu'il plaira, monsieur le président, de désigner. » Vinet voulut répliquer en disant que la consultation devait lui être communiquée afin de la contredire. « Non pas à la partie de Vinet, dit sévèrement le président, mais peut-être à monsieur le procureur du roi. La cause est entendue. » Et le président écrivit au bas de la requête l'ordonnance suivante. « Attendu que, d'une consultation délibérée à l'unanimité par les médecins de cette ville et par le docteur Bianchon, docteur de la faculté de médecine de Paris, il résulte que la mineure Lorrain, réclamée par Rogron, son tuteur, est dans un état de maladie extrêmement grave, amenée par de mauvais traitements et des sévices exercés sur elle au domicile du tuteur et par sa sœur. Nous, présidents du tribunal de première instance de Provins, statuant sur la requête, ordonnons que, jusqu'à la délibération du conseil de famille, qui, suivant la déclaration du subrogé tuteur, sera convoqué, la mineure ne réintégrera pas le domicile pupillaire et sera transférée dans la maison du subrogé tuteur. Subsidiairement, attendu l'état où se trouve la mineure et les traces de violence qui, d'après la consultation des médecins, existent sur sa personne, commettons le médecin en chef et le chirurgien en chef de l'hôpital de Provins pour la visiter, et dans le cas où les sévices seraient constants, faisons toute réserve de l'action du ministère public, et ce, sans préjudice de la voie civile prise par Auffray, subrogé tuteur. Cette terrible ordonnance fut prononcée par le président Tiphaine à haute et intelligible voix. « Pourquoi pas les galères tout de suite ?» dit Vinet. Et tout ce bruit pour une petite fille qui entretenait une intrigue avec un garçon menuisier. Si l'affaire marche ainsi, s'écria-t-il insolemment, nous demanderons notre juge pour cause de suspicion légitime. Vinet quitta le palais et alla chez les principaux organes de son parti expliquer la situation de Rogron, qui n'avait jamais donné une chiquenaude à sa cousine, et dans qui le tribunal voyait, dit-il, moi le tuteur de Pierrette, que le grand électeur de Provins. À l'entendre, les Tiphaine ne faisaient grand bruit de rien. La montagne accoucherait d'une souris. Sylvie, fille éminemment sage et religieuse, avait découvert une intrigue entre la pupille de son frère et un petit ouvrier menuisier, un breton nommé Brigaud. Ce drôle savait très bien que la petite fille allait avoir une fortune de sa grand-mère, qui voulait la suborner. Vinet osait parler de subornation. Mademoiselle Rogron, qui tenait des lettres où éclatait la perversité de cette petite fille, n'était pas aussi blâmable que les Tiphaine voulaient le faire croire. Au cas où elle se serait permis une violence pour obtenir une lettre, ce qu'il expliquait d'ailleurs par l'irritation que l'entêtement breton avait causée à Sylvie, en quoi Rogron était-il répréhensible? L'avocat fit alors de ce procès une affaire de parti et sut lui donner une couleur politique. Aussi, dès cette soirée, y eut-il des divergences dans l'opinion publique. « Oh, qu'il entend qu'une cloche n'a qu'un son !» disaient les gens sages. « Avez-vous écouté Vinet ?»« Oh, Vinet explique très bien les choses !» La maison de Frappier avait été jugée inhabitable pour Pierrette à cause des douleurs que le bruit causerait à la tête.